Merci à vous d'être présent cet après-midi. Vous auriez pu aller vous balader, prendre le soleil. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de nous, vous ne le voyez pas, mais il y a un beau soleil. Il s'appelle le soleil de justice. Alléluia. Et le soleil de justice veut briller dans vos cœurs et dans vos vies pour vous apporter le bonheur, car quand on est à l'extérieur et qu'on voit le soleil à la place de la pluie, ça apporte un peu de joie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah, quand même. Autrement, qu'est-ce que vont faire les gens, je vais dire du nord pour vexer personne, sur le sud, quand vous les entendez, ils vont vous dire: on va chercher le soleil et la chaleur. Mais moi, je vous propose un soleil qui veut remplir vos vies et qui vous apportera une chaleur et un bonheur intérieur. Dites pas tous amen. Hein? Quand on regarde le monde vivre depuis des années, des siècles, pour ceux qui nous ont précédés, et quand nous, aujourd'hui, on regarde le monde dans lequel nous vivons, que nous soyons croyants ou non-croyants, nous nous apercevons que les réflexions, parfois, se recoupent. Et l'on entend dire que nous vivons quand même dans un drôle de monde, que le monde devient de plus en plus difficile, que les situations sont de plus en plus difficiles. En fait, c'est vrai que le monde change, mais si on veut bien considérer la chose, ce n'est pas le monde qui change, c'est l'être humain qui change. C'est le cœur des hommes qui se ferme à la vérité. Et dans la réflexion pour nous cet après-midi, donc, j'ai découvert que dans le monde, il y a une maladie apparemment incurable. Tout le monde en est atteint. Et cette maladie, si elle n'est pas soignée ou révélée, elle conduit à la mort. Alors, dans notre vie individuelle ou collective, on sait qu'il y a des maladies qui sont apparemment incurables, mais j'aime confirmer ce qu'a dit notre frère: Dieu est encore celui qui guérit aujourd'hui. Et le temps des miracles, quoi qu'en disent certains, le temps des miracles n'est pas passé. Dieu est toujours celui qui agit au travers de celui qu'il a donné au monde, c'est-à-dire de Jésus-Christ, pour apporter la délivrance, la guérison, le miracle. Aussi étonnant que cela puisse être pour certains cet après-midi, il est quand même bon aussi de dire que Dieu a encore aujourd'hui le pouvoir de ressusciter les morts, parce qu'il est le Tout-Puissant, et parce qu'il a vaincu la mort, et qu'il communique la vie. Et il viendra un temps, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il viendra un temps où les morts en Christ ressusciteront. Et que les vivants qui seront dans l'attente du retour du Seigneur, car ça c'est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, iront les rejoindre sur les nuées où Jésus est apparu, et tous ensemble ils monteront au ciel. Tout ça, ce sont des gens guéris. Si ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Et bien sûr, la maladie dont je vais vous parler, je l'ai découvert dans un livre, pas médical, pas scientifique, mais qui s'appelle la BIBLE. Vous connaissez ce livre? Ah, il y en a qui ont trouvé quand même. Hein. Il vous fait travailler, il fait chaud, hein, mais c'est pas grave. Il s'agit bien sûr de la Bible. Et en consultant la Bible, la parole de Dieu, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait une maladie qui est incurable pour ceux qui y restent attachés. Alors on va lire un verset, si vous voulez bien, dans Romains au chapitre 6 et verset 23, car autant ensemble consulter ce livre pour savoir de quoi il s'agit exactement, mais je suppose que pour certains vous l'avez déjà trouvé, cette maladie, le nom de cette maladie. Alors lisons ça dans dans Romains au chapitre 6, verset 23. Vous avez trouvé, qu'est-il écrit? Que dit Paul aux Romains? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Alléluia. Alléluia pour la solution qui nous est donnée. Mais merci Seigneur qui, au travers du Saint-Esprit, parle par Paul et qui révèle une vérité, la maladie qui s'appelle le péché, et qui ajoute le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui veut dire, en toute vérité cet après-midi, que tous ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ sont sous la maladie ou l'emprise du péché, ce qui veut dire en clair que tous ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu sont condamnés à mourir. Et non pas à mourir physiquement, car nous savons les uns et les autres que naturellement nous naissons et un jour nous mourrons. C'est la loi de la nature. Mais pour ceux qui vivent avec Christ, ils sont nés dans leur naissance naturelle, puis ils sont nés en tant qu'enfants de Dieu. Et si la nature un jour retournera à la poussière, tous ceux qui se sont réconciliés avec Dieu ressusciteront et rentreront pour la gloire, mais tous ceux qui ne se sont pas réconciliés iront dans un endroit que la Bible appelle l'étang de feu, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Grincements de dents. Je ne sais pas, juste une autre petite parenthèse. Est-ce que parmi vous, quelqu'un, un jour, a dormi dans une même pièce où il y a quelqu'un qui grince des dents? Pour trouver le sommeil, comme on dit dans le midi, que nenni. Hein. Ça grince. C'est aussi pire que celui ou celle qui ronfle. Et quand les deux sont conjugués, c'est la fiesta. Mais vous ne dormez pas. Hein. Vous avez du mal à trouver le sommeil, à avoir un repos de paix. Alors quand ça dure une nuit, ça va, les grincements de dents. Mais quand ça dure une éternité, pas parler de repos à ceux qui seront dans ce lieu-là. Non seulement il y a le grincement de dents, mais il y a le feu de la géhenne. C'est un lieu de souffrance. Et ceux qui sont et qui restent sous l'emprise du péché sont condamnés à l'avance par Dieu à aller finir l'éternité ou commencer l'éternité qui ne finira pas dans ce lieu-là. Et je voudrais cet après-midi, avec le secours et le Saint-Esprit, que quelqu'un parmi nous cet après-midi puisse dire non au péché, non à la vie que j'ai vécue jusqu'à ce jour, oui au Seigneur comme nous l'avons chanté. Oui, je veux te suivre, je veux t'aimer et je veux t'obéir. Alléluia. Peut-être quelqu'un pourrait en cet après-midi également poser cette question, mais le péché c'est quoi? Vous avez remarqué que même entre enfants de Dieu, nous avons un langage qui nous est un petit peu propre, et que quand on parle même avec des inconvertis, des fois ils ont de la difficulté de comprendre. Parce qu'on va arriver, nous, avec notre sentiment d'affection fraternelle, et on va leur dire, tu sais, le péché, c'est pas bien. Mais le gars, il va vous regarder, il va dire, mais c'est quoi le péché? Comment définir le péché? Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je me suis permis de faire un petit peu, comment vous dire, une ordonnance, une révélation, comme vous voulez, sur le péché. Alors, le péché, c'est quoi? Eh bien, le péché englobe tout ce qui n'est pas en harmonie avec la personnalité, les normes, le chemin et la volonté de Dieu qui nous mène au salut éternel. Ça, c'est un résumé de tout ce qui est cité dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le péché comprend la mauvaise conduite, les manquements à nos devoirs, les propos simples, les pensées impures et les désirs ou les mobiles égoïstes. Ça en fait pas mal, hein? Ce que je viens de lire, c'est pas pour vous, hein? Pour les autres. Quoique, avant d'être enfant de Dieu, nous avons eu des mauvaises pensées. J'espère qu'on n'en a plus. Nous avons eu des désirs. Alors, il y a des bons désirs, mais il y a des mauvais désirs. Et est-ce que les mauvais désirs ne surpassent pas les bons désirs? Les désirs provoquent des réactions qui sont contraires, parfois, à la volonté de Dieu que nous avons citée tout à l'heure dans le texte. À partir de ce moment-là, nous comprenons que le péché, si nous voulons exprimer, eh bien, c'est tout simplement la désobéissance à Dieu et à sa parole. Tout homme, toute femme, tout jeune qui ne s'est pas tourné vers le Seigneur et lui a dit « Seigneur, je veux te suivre et t'obéir », passe à côté du but. Hein. Si tu demeures dans ton péché, tu ne peux pas être sauvé. Quel que soit le péché aussi, c'est avoir, et là je rejoins, mais il y a tellement de textes, je n'aurais pas eu assez de l'après-midi pour vous exprimer tout ce que la parole dénonce comme péché. Mais vous avez l'adultère, qui est un péché. Oui ou non? Plus simple, vivre du mensonge, c'est un péché. Vous voyez? Être égoïste, on l'a lu, c'est un péché. Rejeter Dieu de sa vie, c'est un péché. Et je ne veux pas continuer la liste. Être un voleur, c'est péché si je vis du vol. M'adonner à l'alcool, c'est un péché. Parce que tout ce qui domine le corps humain, la pensée humaine, et qui nous amène à avoir des actes contraires à la parole de Dieu, c'est un péché. Non ? Si je prends un simple exemple de l'alcool, quelqu'un qui, vous savez, c'est prouvé ça, que quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, il peut avoir un bon alcool et un mauvais alcool. C'est-à-dire, quand les vapeurs commencent à monter à la tête, on ne sait pas comment réagir. Vous savez, j'ai vécu cela un petit peu, un exemple entre parenthèses. Hein. Quand j'étais à l'armée, parce que j'ai fait l'armée, moi. Merci Seigneur, ça ne m'a pas déformé. Mais un jour, il y a un jeune qui s'est adonné à l'alcool. Et finalement, il était même plus maître. On a essayé, avec d'autres, de le gérer, de le contrôler. Et on avait peur qu'il se fasse du même à lui-même. À un moment donné, eh bien, je vais vous dire, il faut quand même le faire. Dans l'armée, on a ce qu'on appelle des placards individuels. Ce sont les mêmes que vous trouvez des fois dans les usines ou même dans les collèges. Un placard individuel. Eh bien, essayez de le faire. Lui, il y est rentré. Et personne ne pouvait le sortir. C'est rien, il se faisait du mal à lui-même. Mais d'autres, ils font mal aux autres. Certains rentrent dans leur foyer, ils frappent les femmes, ils frappent les enfants. J'espère que les femmes frappent les maris quand elles sont aussi dans un état, parce qu'on parle souvent des hommes, mais jamais des femmes. Mais il y a des femmes aussi qui s'adonnent à l'alcool. Sans compter aujourd'hui qu'il y a, malheureusement, avec l'alcool, la drogue. Mais c'est un péché de vivre tout ça. Et aujourd'hui, quand on apporte la solution, je dirais peut-être par les moyens sociaux, qui font ce qu'ils peuvent, mais aussi qu'on vient avec la parole de Dieu pour leur faire comprendre qu'il y a une délivrance de cet esclavage. Car le péché, c'est être en esclavage. Esclaves de ceux qui nous dominent et qu'on ne peut pas se débarrasser. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous débarrasser de toutes ces choses, nous allons peut-être le voir, mais qui peut nous débarrasser de tous nos péchés, quels qu'ils soient, c'est le Seigneur Jésus. Que de tristesse quand on voit un jeune homme, une jeune fille qui n'accepte pas, ou un homme ou une femme qui n'accepte pas le message de la délivrance et qui se complaît dans son péché, dans son je pense que vous m'avez compris. Et cela est d'autant plus grave quand il y a des enfants qui vivent dans une telle situation. Quel exemple! Le péché domine le monde parce que l'homme se détourne de plus en plus de Dieu. En vous disant cela, je ne cache pas une vérité, je dis une vérité. Et dernièrement, j'ai lu et entendu que beaucoup d'offices religieux, quelle que soit la religion, sont de moins en moins suivis. Aujourd'hui, Dieu est rejeté de la société. Et le péché, sans rentrer dans les détails, prend une place de plus en plus grande dans le monde, mais dans le cœur de l'individu. Et ils ne réalisent pas, aussi bien le monde et ceux qui dirigent le monde, ne réalisent pas que le monde court à sa perte et l'individu qui est sur le monde, c'est chacun de nous, ne réalise pas toujours, vous l'avez certainement réalisé, peut-être pas, mais court à sa perte. Cette perte, c'est une perte éternelle s'il ne se réconcilie pas avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Être esclave du péché. Le péché, je l'ai souligné, c'est s'opposer à Dieu. Vous savez, nous sommes rentrés aujourd'hui dans cette parole qui est donnée dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Je vous la cite. Quel malheur pour ceux qui disent le mal c'est bien et le bien c'est mal. Vous m'avez saisi là ? Aujourd'hui, il y a des unions qui sont mal et qu'on dit bien. Et ces gens-là prennent de plus en plus de place dans notre monde. Le péché est en train de régner en maître. Parce que Dieu le permet. Mais il viendra un temps où Dieu va intervenir d'une façon étonnante pour les hommes, pour les non-croyants, pour ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu, parce que pour ceux qui aujourd'hui marchent avec Dieu et qui, prenons le terme, et qui souffrent d'une telle situation, pour ceux qui sont restés et resteront fidèles à Jésus-Christ, ceux-là connaîtront la délivrance éternelle. Et après la souffrance morale parfois, eh bien, ils régneront dans le temps de repos de Dieu. Pour l'éternité. Amen. Voyez, le repos que vous propose le cimetière, c'est un drôle de repos quand même. Non, ça vous a jamais interpellé, enfin, excusez que je parle de ça, hein, c'est la Pentecôte. Au fait, c'est la Pentecôte. Hein. Vous savez que la Pentecôte est faite de deux mots ? Tu sais, toi ? Tu sais pas ? Ben si. C'est fait de deux mots. Il est fait pente et côte. Oui, mais êtes-vous sur la pente ou sur la côte ? Spirituellement parlant. Bon, je referme ma permesse. Vous avez toute la nuit pour réfléchir. Hein. Oui ou non ? Eh oui. Eh oui. Et nous, il faut que nous soyons prêts pour être élevés dans la présence de Dieu. Donc, d'après vous, il faut être où ? Il faut être sur la côte, bien sûr. Toujours plus haut. Toujours plus haut. J'ai un petit peu dévié là, hein, c'est pas grave. Vous savez qu'il y a un animal qui monte toujours plus haut. C'est l'aigle. Vous n'étiez pas au refuge, vous ? Non ? Non, parce que j'ai apporté ça au refuge de mon temps. L'étude sur l'aigle, mais c'est drôlement bien. C'est l'animal qui monte le plus haut. Et pour fermer ma parenthèse, je dirais, il faut que les chrétiens soient des aigles. Il faut qu'ils montent toujours plus haut, plus près du Seigneur chaque jour. Et plus nous serons hauts, plus nous verrons la gloire de Dieu. Et un jour, cela deviendra concret, puisque nous serons pour toujours en sa présence. Alléluia. Le péché, c'est s'opposer à Dieu. Le péché, c'est ce qui avilit la créature. Et c'est ce qui lui ferme le ciel. Mais quelle grâce de savoir que le Seigneur, le Père éternel, nous a envoyé un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Et qui, en montant sur la croix, a vaincu le péché. Parce que par son sang qu'il a versé sur le mont du Calvaire, il est écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous rend libres. Il nous rend libres. Je me tourne vers le Seigneur. Je reconnais mon péché. Je lui demande pardon. Sincèrement, réellement. Et alors le Seigneur va intervenir avec amour et il va couper tous les liens du péché, toutes les iniquités, tout le passé va être enlevé, ôté. Je vais devenir une nouvelle créature par sa grâce et par son amour. Si mon repentir est sincère, alors instantanément le Seigneur me pardonne et il ôte mon péché. Il me rend libre. Je ne suis plus esclave du péché, plus esclave de l'impureté, plus esclave de l'iniquité. Je suis enfant de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il a payé ma dette. Parce que la Bible dit qu'il a pris mon péché sur la croix. Et lui, il me rend libre. Et aujourd'hui, quelle folie de voir que le monde court à sa perte et que lorsque l'évangile, la parole de Dieu est annoncée, il n'y a aucune réaction. Mais parfois, le message de l'Évangile, le nom de Jésus, le nom de Dieu, est porté à se moquer. On le rejette. Mais vous savez, les gens qui agissent ainsi ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible, ce livre qui apporte une bonne santé spirituelle. Ils ne savent pas qu'il est écrit « On ne se moque pas de Dieu ». On ne se moque pas de Dieu. On peut le rejeter, lui dire « Non, je ne veux pas de ton amour », mais pas se moquer de Dieu. Car un jour ou l'autre, celui ou celle qui se moque de Dieu, s'il ne se repent pas, connaîtra le jugement de Dieu. Car la Bible nous dit que toute chose, tout ce que nous aurons fait, tout ce que nous aurons dit, nous serons en jugement devant Dieu. Et nous aurons chacun, dit la Bible, à rendre des comptes sur ce que nous aurons dit, sur ce que nous aurons pensé, sur ce que nous aurons fait. Et ce qui concerne Dieu, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour notre moquerie. Dieu nous protège de cela. Et si jamais vous vous êtes moqué de Dieu, laissez-moi vous dire avec beaucoup de sérieux qu'il serait temps que vous vous réconciliez avec Dieu. Et que vous lui demandez pardon. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est un exemple que je vous cite, une parabole du Seigneur. Pour la plupart des lecteurs de la Bible, vous connaissez ce passage. Il s'agit de l'homme riche. Cet homme riche qui était déjà assez riche et puis qui a semé dans ses champs une culture, et puis il est écrit que cette culture lui a beaucoup rapporté parce qu'elle a beaucoup produit. Alors quand il a vu le résultat de son travail et puis le résultat de la récolte, il a dit « Mais mes greniers, ils sont trop petits. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Voilà, comme c'était un homme riche et quelque part un peu intelligent, il a dit « Ben, je sais ce que je vais faire. Je vais détruire mes anciens silos, là, mes anciens greniers, et je vais en construire de plus grands. » Oui, c'était pas mal ça. Détruire, reconstruire. Et puis après, il a dit « Ah !» Il a dit ça à soi-même. Je vous le lis, pour pas qu'il y ait d'erreur. « Mon ami, ensuite je dirai à moi-même, mon ami se parle à lui en disant, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. repose-toi, mange, amuse-toi. Quand j'ai lu ces trois, là je vous l'ai lu dans une autre version que Second, je crois, et quand j'ai lu ou me remis ça en tête, repose-toi, mange, bois, amuse-toi, j'ai dit, mais c'est ce qu'on vit, non? Quand vous parlez avec certaines personnes, ce qu'ils vous disent, ah moi ce que je veux c'est m'amuser, c'est bien manger, c'est bien boire, me reposer, jouir de la vie. Il y a des années en arrière, j'avais entendu cette personne qui disait, parce qu'elle était questionnée sur la réalité du travail, et la personne, c'était un journaliste d'ailleurs, qui lui disait, mais alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la semaine de travail? La personne elle a répondu, ben, si je pouvais avoir le vendredi, samedi, dimanche, je serais contente. Et là, ça m'a fait penser à mange, boire, réjouis-toi, repose-toi. Il n'y a que les gens à la retraite qui font ça. Quoi qu'à la retraite, manger, boire, reposer. Non, moi, je crois qu'à la retraite, on travaille un peu plus que... Parce qu'on a toujours, on cherche toujours quelque chose à faire. Avant, on nous disait de faire, mais on dit, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je ne sais pas si vous réagissez comme moi, mais on peut pas rester sans rien faire. C'est opposé à la nature. Je vais vous permettez, je vais essayer de pas, je vais arriver à la fin. Mais j'ai entendu d'un homme religieux dire ceci il n'y a pas si longtemps, parce que bon, maintenant, je cherche, je le dis, j'écoute, et qui disait que le travail, c'était pas naturel. Mais Dieu n'a pas créé le travail. Alors je me suis dit, ça c'est sûr que Dieu n'a pas créé le travail, mais moi je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que quand Adam a péché par la désobéissance, qu'est-ce que lui a dit Dieu? Je te pose pas la question. qu'est-ce que Dieu lui a dit? Voilà. Maintenant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais c'est une folie! Quand je pensais, mais il dit n'importe quoi ce bonhomme-là. Dieu n'a peut-être pas inventé le travail, mais il a dit à l'homme, avant je te nourrissais, maintenant tu travailles. Avant je t'avais placé dans un jardin d'Éden, mais par ta désobéissance, n'oubliez pas que dans Romains, il est écrit, par la désobéissance d'un seul, tous ont désobéi à Dieu. Aujourd'hui, quelque part, oui, on paye la désobéissance d'Adam. Car Dieu avait créé le monde pour que l'homme soit heureux dans le jardin d'Éden. Mais par la désobéissance. Oui, mais s'il est vrai que par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde, par l'obéissance d'un seul, nous sommes ramenés à l'amour de Dieu, qui nous offre plus le jardin d'Éden, mais qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et il vaut mieux obéir que désobéir. Obéir à Dieu. Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut concevoir qu'obéir à Dieu, ce n'est pas toujours agréable. Parce qu'on va avoir de l'opposition, on va avoir des gens qui vont critiquer, qui vont se moquer. Et j'oserais dire, et alors? Ce n'est pas le présent qu'il faut regarder, c'est l'éternité. Oui, non? Un jour, il y a deux disciples dans les Actes des Apôtres qui ont été interpellés par des gens, des juges, enfin des hauts dignitaires, et vous savez ce qu'ils leur ont demandé? De ne plus parler de Jésus, terminé, vous dites rien, vous vous taisez. Ah bon? Et Pierre a dit, mais attendez, vous êtes bien gentil, vous. Ça c'est moi qui dis bien gentil. Il dit, mais jamais vous ne nous interdirez de parler de Jésus, car mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Et la question des fois qu'on peut se poser est celle-ci, aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, à qui voulons-nous plaire? On sait très bien que dans le monde, les gens veulent souvent plaire à l'autre. Pour avoir certaines facilités des fois. Alors on veut plaire les uns aux autres, on veut se plaire aux autres. Mais pour le chrétien, la première des choses, c'est plaire à Dieu. Et qu'importe ce que pensent les autres quand je dis que je suis chrétien. Qu'importe ce que pensent les autres quand je parle de Jésus. Qu'importe ce que pensent les autres quand je remets un appel de la vie dans les mains. Qu'importe. Dieu a dit, toi, suis-moi. Alléluia. Quand je suis libéré du péché, je suis libéré de l'esclave du péché. Mais ce mot esclave dans la parole de Dieu veut dire aussi serviteur. Je deviens serviteur de Jésus-Christ, donc esclave de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si vous donnez votre cœur à Jésus ce soir, si vous lui dites, viens habiter dans ma vie et libère-moi du péché, de mes chaînes, libère-moi, fais de moi une créature nouvelle, alors Christ viendra habiter en vous. Vous ne serez plus esclave du monde ni du péché, vous serez esclave de Jésus-Christ pour vivre dans la vie éternelle. Et il se servira de vous pour que son nom soit connu. Alléluia. C'est ça la vérité. Alors, notre homme riche là qui disait... ce que le monde pense aujourd'hui, hein, ça n'a pas beaucoup changé le monde. Hein. Mangeons, buvons, amusons-nous. Les gens attendent ça. Aujourd'hui, c'est là. On s'amuse. Non, comment ils disent? Je ne sais plus. Il y a une expression qu'ils emploient. Hein, on va faire la keuf ou je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas trop. Ils ont une expression qui leur est propre pour aller faire la fête. Ils pensent qu'à ça. Ils arrivent le lundi, ils parlent de leur week-end et le mardi, ils recommencent à penser au week-end. Et entre-temps, ils font rien. Non, ça c'est moi qui le dis. Mais maintenant, je voudrais vous dire, cet homme a dit « mon ami » en parlant de lui-même. Mais ce qui est très important, c'est de savoir ce que Dieu va lui dire. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos pensées peuvent être contraires à celles de Dieu. Or, cet homme, il était heureux. Hein ? Je suis riche. J'ai doublé ma richesse. Oui. Eh bien, j'aime vous lire ceci. Dans Luc au chapitre 12, verset 20, ce que pense Dieu. Dans Parole de vie, il dit, mais Dieu lui dit, tu es fou. C'est plus précis qu'insensé. Tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir ? La sentence, elle est tombée aussi radicale que celui qui a dit « Je vais construire mes greniers ». Oui, tu vas construire tes greniers. Quand on analyse cela, on s'aperçoit d'une chose. Pourquoi Dieu a agi comme ça? Parce que si vous faites bien attention, cet homme a pensé à lui. Il a pensé à ses biens. Il a pensé à sa richesse. Il a pensé à s'amuser, à bien profiter de la vie. Mais attendez bien, réfléchissez, pour avoir une telle récolte, il a fallu qu'il ait la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il était mort pendant son travail, il n'aurait jamais pu dire, moi, hein? Donc c'est une grâce de Dieu. Maintenant, autre chose, quand on réfléchit, pour faire pousser ce qu'il a semé, il a fallu quoi? Il a fallu au moins deux éléments. Le soleil et la pluie. Et qui fait pleuvoir? Merci. Et qui fait sortir le soleil? C'est lui qui les a créés. Est-ce qu'on est bien d'accord? Parce que la pluie, aujourd'hui, on n'est pas content. Hein? Mais c'est la faute à qui? Ah non, moi je ne vais pas dire à moi. Hein? Je veux dire, c'est la faute aux gens du temps de Noé. Car c'est là que la pluie est tombée pour la première fois, le déluge. Avant, la terre, elle était arrosée. Qu'est-ce qu'on aurait apprécié, nous, tous les soirs, il faut, pas tous les soirs, les deux soirs ou trois soirs, là, prends ton jet d'eau, il va arroser. Hein? Eux, ils se couchaient, au matin, c'était arrosé. Eh ouais, mais à cause de ce qui se passa... La méchanceté croissante du temps de Noé a fait que Dieu a dû intervenir pour ramener sa justice, que le monde alors périt à cause de leur méchanceté et tout ce qui se passait. Mais seulement, combien c'est merveilleux, 7 personnes furent sauvées. 8. J'en ai oublié une. 8 furent sauvées. Parce qu'ils... Allez, je vous pose la question. Travaillez un tout petit peu. Pourquoi furent-ils sauvés? J'aurais préféré un autre mot. Ah, voilà le mot précis. Parce qu'ils obéirent à Dieu. C'est simple. Et figurez-vous que quand, moi j'y étais pas, mais on peut l'imaginer, quand Noé a commencé à construire son arche d'après les plans que Dieu lui a montrés, alors il a commencé, il est allé chercher du bois, il a commencé à construire. Mais qu'est-ce que vous pensez que les gens de son temps sont venus lui dire? Voilà, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Ben, je construis un bateau. Mais c'est quoi un bateau? Ben, c'est un bateau qui va me permettre à voguer. Comment à voguer? Oui, parce qu'il va pleuvoir. Mais que tu racontes? T'es fou! Il n'a jamais plu! On ne sait même pas ce que c'est les gouttes d'eau. Nous, on sait. Et il a mis plusieurs années à construire son... l'arche de Dieu. Il fallait quand même aussi dire, quand Dieu lui a dit, fais-toi une arche, et puis j'amènerai les animaux. Il faut pas calculer là, il faut croire. Hein, parce que il va amener. Attends, mais comment il a fait pour amener l'éléphant? Donc il y a des fois des gens qui me disent, petite plaisanterie entre parenthèses, vous n'allez pas me lyncher. Hein. Non. Oh, peut-être que oui, alors. Je sais pas. Je vais vous demander, moi, pourquoi Noé l'a mis 100 ans environ pour construire son arche. 100 ans. Vous savez pourquoi? Ben là, quelqu'un un jour me donne une réponse. Tu la diras pas, Charles. C'est parce qu'il fallait donner autant aux escargots pour venir à l'arche. Je ne sais pas comment Dieu s'est pris, mais en tout cas, tous les animaux sont rentrés par couple dans l'arche. Et quand tout le monde fut rentré, ce sont Noé, sa femme et ses enfants qui rentrèrent dans l'arche, enfants et belles-filles. Et qu'est-il écrit là? Dieu attenda 7 jours, et au bout de 7 jours, il nous a dit, Dieu ferma la porte. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et aujourd'hui, il y a une porte qui est là, devant nous, qui s'appelle la porte de la grâce. C'est le même nom que celui qui est descendu et qui a versé son sang sur la croix. C'est le nom de Jésus. Et Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé parce que je l'aurai délié de tous ses péchés. Et qu'il aura été fidèle et obéissant jusqu'au bout. C'est ça la vérité. Le péché nous condamne. Mais Jésus nous libère et nous sauve. Mais voilà. La décision nous appartient individuellement. Ou je veux continuer à vivre dans le monde, infâme, perverse, inique. Quoique pour se justifier, certains essayent de faire de bonnes œuvres. Certains font tellement de bonnes œuvres qui font des chèques. Tant mieux, j'ai rien contre ces choses. Là où ça me gêne un peu, c'est que la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. À chacun de réfléchir. Si je fais une œuvre ou une BA, je la fais, je dirais, devant Dieu et je ne vais pas le proclamer. Ça s'appelle quoi, ça? Essayer de gagner des gens à sa personne, c'est aussi peut-être quelque part d'afficher les richesses que l'on a. Vous savez que dans le monde, je vais terminer, mais dans le monde, il y a des abominations qui se font. Ça nous paraît anodin, on peut en sourire. Mais vous savez, je me souviens, il y a quelques années, peut-être quelqu'un a vu cela comme moi, d'un homme qui a brûlé un billet de 500 francs devant tout le monde. Ça, c'est pas mal. Je ne dis pas les noms. Mais il y en a un autre qui a fait, dans un autre pays, beaucoup plus que cela. Il était riche, c'est un acteur. Il était là avec plein de monde autour de lui et puis d'un seul coup il s'est approché de la cheminée où il était Il avait avec lui un tas de billets. Il allumait la cheminée et il a jeté les billets dans la cheminée. Il les a brûlés. Abomination. Alors il y a un journaliste qui était là, il lui a posé la question. Il dit, mais pourquoi vous faites cela? Il y a tellement de choses que vous auriez pu faire avec ça. Et la réponse de cet homme, folie. Parce que je n'aurais pas assez de toute ma vie pour brûler, enfin pour consommer tout l'argent que j'ai gagné. Abomination. Et ça, ce ne sont que des exemples d'abomination. Mais il y en a plein d'abominations qui se font autour de nous. Le péché est règne. Le péché règne dans le cœur de l'homme. Et à chacun à sa mesure. Mais ce que la parole de Dieu me dit, c'est que le monde d'aujourd'hui, eh bien, il ne peut pas changer. Et il ne changera pas. Il s'enfoncera. Mais Dieu donne la possibilité à chacun d'entre nous de se réconcilier avec Dieu. Laissez-moi terminer en vous citant ce verset simplement. Dans Jérémie au chapitre 17, versets 9 et 10, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître ? Mais l'Éternel éprouve le cœur. Il dit cela, l'Éternel. Moi, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses jasissements. Malheur à toi. Permettez-moi cette expression. Malheur à toi si tu te ne réconcilies pas avec Dieu. Malheur à toi si tu continues à vivre dans le péché et l'iniquité. Malheur à toi car tu as l'apparence de la joie, que tout va bien, mais enfin, intérieurement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'iniquité s'accroît. On multiplie les plaisirs. Regardez ce qui se passe. On multiplie les plaisirs pour étouffer les problèmes. Alors, on s'amuse, on va, on vient. Mais aujourd'hui, on entend d'un autre côté qu'il y a de plus en plus de suicides dans le monde. Et notamment de suicide dans la jeunesse. Il n'y a pas un problème quelque part? On va danser, on va sauter, on va faire tout ce qu'on veut. Oui, c'est formidable, c'est extra. Ah, on s'est bien amusé. Et puis 24 heures après, on apprend qu'il s'est tué. Et où on va là? Il n'y a pas un problème? C'est qu'il y a, dans le cœur de l'homme, disait un certain écrivain, il y a un vide que l'on ne peut remplir. Et celui qui peut remplir le vide, il a un nom. C'est le nom de Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de pardon. En dehors de lui, le monde est condamné. On va dire, l'individu est condamné pour l'éternité. Mais à celui qui se repent, et qui donne sa vie, qui s'engage avec lui, et qui vit pour lui, le Seigneur lui assure la vie éternelle. Alléluia. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est la plus belle des conclusions. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous gêne là. Est-ce que c'est mourra ou jamais? Je ne sais pas. Mais c'est une finalité heureuse. Tout à l'heure, peut-être qu'avant de nous séparer, nous pourrions chanter « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Alléluia. Vous pourrez peut-être le chanter maintenant. Vous connaissez la musique? Non? Vous ne connaissez pas la musique? Vous me faites peut-être un petit rire, là. « Je sais qu'un jour, mes yeux verront. » Vous connaissez ce chant-là? Vous pouvez me dire oui ou non. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais mordu personne. Pendant les réunions. Après, c'est autre chose. Je sais qu'un jour mes yeux verront. Vous le connaissez? Oui, mais on va vous le chanter. Hein? Ah, il est là. Merci. Essaye avec un ré, non? Un fa? Merci. De tout notre cœur, on peut chanter ça de tout notre cœur? Et pendant le chant de ce cantique, ou de ce petit cœur, si quelqu'un dans cette salle a saisi le message de cet après-midi, et qui veut quitter cette salle réconciliée avec Dieu, c'est sa décision personnelle avec Jésus-Christ. Mais je voudrais aider cette personne si elle est là. Je voudrais prier pour elle. Et pendant le chant de ce petit cœur, si quelqu'un veut se réconcilier avec Dieu, sincèrement, alors je demande à cette personne, et les têtes ou les yeux seront fermés. Ah, c'est difficile si vous lisez les paroles, mais essayez de venir, n'ayez pas honte, n'ayez pas crainte, venez. Et pendant ce chant, ou après ce chant, on priera le Seigneur pour qu'il vous aide dans votre marche avec lui. Alléluia. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux et je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia.